c'est une façon différente de défendre ses couleurs. Ultra, ouais, c'est en chantant, en animant le stade et tout ça. Mais le fait de savoir quand ça se passe entre personnes, entre guillemets, qu'on s'entend, eux, ils viennent, c'est pour faire un autre match. Donc si tu les bats, t'as gagné un autre match, t'as représenté ton club, tes couleurs. Après, si les personnes, ça les intéresse pas en face, ça m'intéresse pas de les frapper non plus. Je veux pas les frapper sur un père qui vient avec ses deux gosses au stade. Ça n'a aucun intérêt, mais un gars qui vient pour se battre, si on se bat, tu gagnes, tu gagnes, tu perds, tu perds. Beaucoup le savent, tu peux pas tout le temps gagner, tu tomberas toujours un jour sur plus fort que toi. Tu le sais, mais tu y vas quand même, donc c'est une satisfaction. Ça défoule le monde.
He was a sweet and tender hooligan, hooligan, and he said that he never, 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 never to eat again. Not until next.
Après avoir découvert le monde des hooligans belges, et plus précisément celui du noyau dur d'Anderlecht, le Brussels Casual Service, partons à la découverte d'une autre facette du fanatisme lié au ballon rond, le mouvement ultra. Et pour le découvrir, partons à Liège. Bienvenue dans la cité ardente, Liège, sa citadelle, son perron, ses gaufres, mais aussi et surtout, son club de football, le Standard et ses supporters les plus chauds du pays, les Ultra Inferno. C'est à une centaine de mètres du stade mythique de Sclessin que se trouve ce qu'on appelle la COSA, le local des Ultra Inferno, le premier groupe ultra de Belgique. Inspirés par ce qui se faisait en Italie, de jeunes supporters du Standard ont décidé en 1996 de copier ces groupes dont la ferveur se traduisait par la beauté de ce qu'on appelle les tifos. Ce sont en quelque sorte des animations visuelles en tribune organisées lors de l'entrée des joueurs sur le terrain. Ces tifos se font généralement à l'aide d'engins pyrotechniques comme des fumigènes, mais aussi des drapeaux, des papiers ou d'immenses bâches colorées. Nous voici donc dans la COSA et alors que le match du soir Standard Gang doit se jouer dans plusieurs heures, ce local exigu et convivial est déjà bondé. Partout sur les murs, on retrouve des photos des plus beaux tifos du groupe, mais aussi et surtout de nombreux tags représentant le diable, symbole des Ultra Inferno. Être ultra, c'est un boulot à plein temps, mais c'est avant tout une véritable passion. JT fait partie des Ultra Inferno depuis la création du groupe. Il nous donne sa vision des ultras.
Sa différence par rapport aux supporters classiques, c'est par rapport à la passion. C'est juste une passion qui est beaucoup plus forte et qui se vit au jour le jour et pas que le jour du match. Moi, c'est comme ça que je vois être ultra, en fait. Donc c'est vraiment ça. C'est vivre ultra pour vivre ultra. C'est, bon, c'est souvent une phrase qu'on dit. Donc c'est vraiment ça, c'est le vivre au jour le jour avec cette mentalité-là.
Geoffrey est lui aussi présent depuis le début. Il est d'ailleurs un des capots du groupe, c'est-à-dire qu'il est chargé de coordonner et lancer les chants en tribune durant les matchs. Quand on lui demande ce que cela signifie d'être membre des Ultra Inferno, il n'hésite pas à jouer sur les clichés.
Un alcoolique drogué, bagarreur. Non, bah c'est être impliqué. D'abord, c'est être supporter du Standard avant tout. Avoir une opinion politique, pas spécialement de gauche affirmée, mais tout ce qui est de droite, on exclut, nous. Et puis, c'est être un peu plus impliqué qu'un supporter normal, donc c'est préparer les animations, essayer d'aller au plus souvent en déplacement. C'est un supporter passionné un peu plus que les autres, à sa façon.
Le mouvement ultra est encore relativement jeune dans notre pays. S'il s'est bien développé en Wallonie, ce n'est pas tout à fait le cas en Flandre, comme nous l'explique JT.
C'est aussi une question de mentalité. La Belgique a toujours eu une tradition, une mentalité plus british. Donc plutôt bon, le supporterisme extrême, on va dire. Passionné était plutôt du côté hooliganisme, donc des groupes des sides. Donc, bon, les sides, c'est en Hollande et en Belgique, c'est le nom qu'on donne aux firms en Angleterre. Donc c'est vrai que ça met plus de temps à s'implanter. Ça, c'est clair que la mentalité, ça a été beaucoup plus vite dans les villes à consonance italienne, donc Liège-Charleroi, dans une moindre mesure Genk. On va dire vrai groupe ultra, tu en as pour l'instant qui sont actifs, qui s'affirment comme ça et qui assument, tu en as peut-être quatre. Donc tu as Genk, les Drugi, les Storm à Charleroi, nous et la Mauve Army maintenant. Bon, le PHK aussi, oui, PHK, deux groupes à Liège. Mais donc les autres, que ce soit Cercle de Bruges ou parfois à Saint-Tron, je ne sais même pas très bien. Si c'est un groupe, enfin, si ça filme en tant que groupe ultra ou pas, ils font des animations, par exemple. Donc, tout est un peu une question de dénomination. Et comme je te dis, comme la mentalité à la base est plus british, t'as aussi parfois des... ça pourrait arriver qu'un groupe fasse des animations sans se dire ultra, par exemple. Donc voilà, on est un peu au croisement entre les deux, et c'est vrai que c'est un phénomène assez jeune.
Nous sommes toujours dans la Cosa qui ne cesse de se remplir au fur et à mesure qu'on se rapproche du début du match. Mais il n'y a pas que les jours de match que la Cosa s'active. En semaine, on s'y retrouve pour préparer les tifos, organiser des déplacements ou tout simplement y boire un verre avec les copains. La Cosa est constituée en ASBL où chacun a une fonction bien précise. Car organiser des animations comme les tifos coûte cher. Pour financer ces activités, les Infernos organisent des soupers, des tournois de mini-foot ou même des concerts. Le groupe compte également beaucoup sur sa buvette, la cotisation annuelle des membres, mais aussi et surtout sur leur propre merchandising. En effet, pulls, t-shirts, casquettes et autres écharpes sont vendus à l'effigie du groupe. En somme, la vie chez les Ultras est une véritable vie associative, comme le confirme JT.
Tout à fait, donc c'est vrai que c'est quand même... Bon, parce qu'il y a quand même pas mal de gestion. Bon, un tifo, ça coûte de l'argent, il y a du merchandising, il y a un local à gérer, il y a des prépas à gérer, il y a des décisions à prendre, il y a des déplacements organisés, il y a... Donc il y a beaucoup de choses à gérer et c'est clair que chacun a ses responsabilités. C'est un peu un fonctionnement associatif. Quoi. Il n'y a pas la structure. En fait, c'est pour ça qu'on a créé la COSA, pour donner une structure. La COSA, mais ça c'est parce que légalement, on a besoin d'un président, d'un trésorier, d'un secrétaire. Donc là, il y a des noms, entre guillemets, aux personnes à responsabilité. Mais c'est totalement dans les papiers. Et après, bon, voilà. Quoi.
Paradoxalement, les ultras sont apparus en Belgique quasiment en même temps que la loi football. Or, si cette loi est contraignante pour les hooligans, elle l'est tout autant pour les ultras. En effet, celle-ci punit sévèrement l'utilisation dans un stade d'engins pyrotechniques comme les fumigènes. Et malheureusement pour eux, ce sont des objets de prédilection pour les tifos. De plus, elle sanctionne également tout geste ou parole qui pourrait être considéré comme étant de l'incitation à la haine. Or, comme leur nom l'indique, les ultras supportent leur équipe de façon fanatique et la passion prend souvent le dessus sur la raison. JT nous fait part de sa frustration vis-à-vis de cette loi.
Les ultras par rapport à la loi football, j'imagine que c'est pas le grand amour entre les deux.
Non, pas du tout.
Qu'est-ce que vous lui reprochez principalement à cette loi ?
Donc il y a des mesures qu'il fallait prendre. Malheureusement pour moi, ça a été beaucoup trop loin. On punit trop et trop sévèrement et mal. Au lieu de... Enfin bon, il y a quand même beaucoup de jeunes. Quand tu es dans la passion d'un match, moi j'ai eu des procédures pour des doigts d'honneur. Je dis pas que c'est noble, tout ce que tu veux, mais ça fait partie de la passion, de l'énervement d'un match. Comme quand il y a un gars au volant, on lui fait une tête à queue, va peut-être impulsivement gueuler, lui faire un doigt d'honneur, on va pas lui retirer son permis, quoi, tu vois. Donc, je dis pas que c'est civilement beau, mais voilà, faut un peu arrêter ou jeter une boulette de papier sur le terrain. Tu peux bon monter au grillage, pareil, dans l'euphorie d'un match, d'un goal, faut un peu arrêter. Le problème aussi, c'est que c'est la seule loi où tu te fais juger par un organisme, la cellule foot, et pas par un juge, tu vois. Donc il y a parfois un peu du parti pris dans les décisions, et voilà, et les chiffres le montrent, tu vois, la violence est en baisse, et les idées s'augmentent, donc voilà. Il faut laisser le foot ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire populaire et passionné.
Une des caractéristiques des Ultra Inferno est qu'ils revendiquent leur appartenance à une mouvance politique de gauche, voire d'extrême gauche. Il arrive régulièrement que les groupes ultra se positionnent politiquement. Les Infernos sont les seuls à le faire ouvertement en Belgique, mais en Italie par exemple, il y a aussi de nombreux groupes attachés à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. Les Ultra Infernos font d'ailleurs partie d'un réseau européen d'ultras qui se veulent tous de gauche, ou du moins antifascistes. C'est le réseau Alerta Network. Il permet aux groupes adhérents d'entretenir des relations d'amitié avec des ultras d'autres pays.
On est assez actifs dans le réseau Alerta, qui est un réseau qui regroupe des groupes quasi uniquement ultra, mais pas que ultra, mais on va dire 80%, 90%, c'est des groupes ultra de partout en Europe. Donc on a beaucoup d'amitié, évidemment, par ce réseau-là, par les tournois où on va. Et puis après, tu as des meilleurs contacts avec certains groupes que d'autres. Donc c'est vrai que pour l'instant, on va dire les groupes de ce réseau-là, donc réseau Alerta, avec qui on a les plus grosses connexions et les meilleurs contacts, sont à Saint-Poli, Terni en Italie, à Apollo Tel Aviv. Omonia un peu aussi, mais Omonia est un groupe qui est venu il y a un an et demi dans le réseau, donc c'est des gens qui on s'entend directement très bien.
L'heure est venue pour nous de se rendre au stade avec les Ultras. Une fois installés en tribune, nous évoquons avec Geoffrey la rivalité qui opposera les Infernos à leurs homologues du soir, les Droguis de Genk.
Le match aujourd'hui, est-ce que c'est tendu comme ambiance ou pas ?
Non, pas spécialement tendu, mais c'est quand même un bon rival en face parce qu'ils ont quand même deux bons groupes d'animation par rapport à nous. On va dire, il y a nous, maintenant il y a peut-être la MA, Et eux, ils sont égales niveau animation avec les gars de Charleroi. Et encore, les gars de Charleroi sont plus vieux, mais niveau esthétique, c'est... ils sont dépassés par tous les groupes en Belgique. Aujourd'hui, à moins qu'eux nous donnent un rendez-vous ici à 20 km, 20, 30 km du stade. Ouais, il faut encore qu'ils viennent et qu'ils ne soient pas relayés par les mauvaises personnes pour pas que les flics soient au courant. Mais... sinon, non. Niveau incident, aujourd'hui, c'est 99% de chance qu'il n'y ait rien.
Le match se termine par une défaite du Standard et comme l'a prédit Geoffrey, aucun incident n'a éclaté ni à l'intérieur ni à l'extérieur du stade. Le moment est venu de quitter ce Sclessin qui aura fait honneur à sa réputation d'enfer, mais ce que nous a dit Geoffrey nous interpelle. Il a évoqué des rendez-vous comme le font les hooligans du Brussels Casual Service ou encore de l'Antwerp Casual Crew. Pourtant, le mouvement ultra se veut en principe non violent. Pour en savoir plus, nous rencontrons Christian Hanon, chef de la sécurité du Standard de Liège.
C'est clair que dans ces groupes, il y a des gens qui, ben, par exemple, lors de matchs de Coupe d'Europe, qui sont les derniers, enfin, vraiment les dernières possibilités plus évidentes de confrontation entre supporters. Ben, à chaque fois qu'on a repéré au niveau de la police des groupes à risque du Standard, par exemple dans le centre-ville, ben, il est clair qu'il y a des membres des ultras qui avaient plutôt tendance à être aigris et à suivre un petit peu le mouvement. Donc c'est une des dérives possibles et qu'il faut tenir à l'œil, mais bon.
Pour certains ultras, la rivalité ne se mesure donc pas uniquement dans les tifos ou l'intensité des chants. C'est d'ailleurs le cas de Geoffrey.
Ouais, la violence autour de ça, pour moi ça fait partie du football, donc... c'est pas vraiment hooligan. Les ultras, c'est pas simplement agiter un drapeau en tribune et chanter. À la base... être ultra, ils disent que c'est ça. Ils se battent que s'ils se font attaquer, mais il y a toujours bien un qui doit attaquer l'autre. Donc, la violence fait partie du mouvement ultra aussi.
Pour mieux comprendre cette radicalisation de certains ultras infernaux, retournons quelques années en arrière. Autrefois, les supporters violents du Standard formaient ce qu'on appelle le Hellside, un des groupes de hooligans les plus violents du pays. Aujourd'hui, le Hellside est vieillissant et il y a très peu de relève pour perpétuer le mouvement hooligan à Liège. Seul un groupe d'une quarantaine de jeunes tente en quelque sorte de relancer la machine. David est l'un d'entre eux.
Maintenant, on a un petit groupe qui n'hésite pas à prendre contact et qui bouge, je veux dire. Mais bon, le but, c'est pas vraiment de se faire passer pour le revival du Hellside ni quoi que ce soit. Nous, on a une partie de jeunes qui avons la même conception du foot et du buzz en tribune. Maintenant, s'il y a possibilité de faire quelque chose, on le fait. Mais bon, notre but, c'est pas de se la raconter ou de faire revivre le Hellside comme il y en a certains qui le croient. C'est sûr que maintenant, ce qui se tente en groupe au Ligano Standard, c'est devenu quelque chose de plus difficile parce que bon, il y a un gros héritage au niveau Hellside. Durant les années 90, notamment, ça faisait partie quand même du groupe top 3, voire top 2 en Belgique. Donc du coup, à l'heure actuelle, c'est sûr que depuis la répression et tout, il y a énormément de jeunes qui se tournent vers le phénomène ultra. Mais à l'heure actuelle, je veux dire, bon, il y a quelques ultras à l'italienne aussi qui n'hésitent pas à employer les mains. Quant aux jeunes, il y a des jeunes un peu aux quatre coins du pays, quelques flamands aussi maintenant qui viennent de plus en plus régulièrement. Mais on ne peut pas parler de groupes structurés comme avant, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on est très peu actifs, mais bon, on sélectionne régulièrement en Coupe d'Europe surtout. Parce qu'il y a moins de crainte, surtout à l'extérieur, moins de crainte de se faire embarquer. Et puis maintenant, en Belgique, c'est vraiment des affrontements ponctuels, mais plus rien comparable à ce qu'il y avait quelques années.
Il y a donc trois catégories de supporters qui peuvent poser des problèmes au Standard. Thierry Grandry, spotter à la police de Liège, nous en dresse le tableau.
Effectivement, nous avons des groupes différents, et ces groupes différents fonctionnent de différentes manières. Donc si on prend le Hellside, donc la vieille garde, ils ont gardé leur mentalité. La seule différence, c'est qu'ils ont beaucoup moins d'opportunités que précédemment. Les ultras, par contre, eux, c'est un mouvement qui a grandi ces dernières années, qui est un petit peu, en quelque sorte, la relève entre guillemets du Hellside. Pourquoi ? Parce que les jeunes ont beaucoup plus facile de s'intégrer vers des mouvements ultras et qu'ils s'amusent mieux chez eux. Alors, en ce qui concerne les ultras, donc, je vais dire que c'est une évolution. C'est la partie la plus dure des ultras qui se mêle avec des membres du Hellside pour organiser des rendez-vous et des bagarres. Donc ils jouent sur les deux tableaux, tableau ultra et tableau vieille garde.
Le phénomène ultra, comme on l'appelle donc, nous vient directement d'Allemagne où il est quasiment généralisé. Là-bas, les groupes ultra se donnent régulièrement rendez-vous à l'abri des regards indiscrets pour s'affronter lors de free fight. Cependant, c'est encore loin d'être le cas en Belgique. Bertrand Finkeur, criminologue.
Je pense qu'on est un petit peu dans les premières années, quelque part, de cette transformation. Et donc, c'est difficile d'avoir un regard vraiment bien assis par rapport à cette évolution.
De plus, les supporters violents du Standard, qu'ils soient hooligans ou ultras, ne raffolent pas des free fights, même si c'est actuellement le dernier moyen pour eux d'avoir de l'action en Belgique. Geoffrey et David ont déjà pris part à des free fights. Ils nous expliquent tour à tour les raisons pour lesquelles ils ne les apprécient pas.
Le hooliganisme actuel en Belgique, c'est obligé de faire des free fights. Avoir des bagarres à la sortie du stade, 10 minutes après, il n'y aura plus jamais en Belgique. Donc...
Qu'est-ce que tu préfères?
C'est le hooliganisme à l'ancienne. Il y a plus la montée d'adrénaline. Tu sais pas sur qui tu tombes, sur quoi tu vas tomber. Donc, j'ai toujours dit pour aller faire un free fight dans les balls ou une salle de sport, on fait des 1 contre 1 sur un ring et c'est bon.
Il y a un groupe qui nous a proposé l'année dernière, alors qu'on joue à domicile, un rendez-vous pendant le match et à 50 km de Liège, alors qu'on joue à domicile. Donc, moi, ça n'a aucun sens d'aller là-bas. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec le football. Qui plus est, moi, la priorité, c'est de suivre mon équipe pendant le match. Je suis dans le stade, je ne suis pas occupé à me battre dans les champs.
Nous l'avons donc bien compris, des bagarres spontanées près des stades, avant, pendant ou après les matchs, seront de plus en plus rares en Belgique. Et ce, grâce à la loi football et à toutes les mesures adoptées que nous avons déjà évoquées. Par contre, il reste une menace qui est toujours d'actualité. Elle concerne aussi bien les hooligans du Standard et d'Anderlecht que ceux des autres clubs du pays. Cette menace, ce sont les matchs de Coupe d'Europe. Tout simplement parce que durant ces matchs, le système dit combi-car n'est pas d'application, alors qu'il l'est durant tous les matchs de championnat de Belgique. Ce système combi-car consiste à obliger les supporters visiteurs à se rendre au stade en car. De plus, pour avoir accès au stade, ils doivent obligatoirement détenir un ticket pour la rencontre, un moyen pratique pour les forces de l'ordre de canaliser les supporters adverses. Geoffrey témoigne.
Au Standard, sur les 3 dernières années, je crois que tous les matchs où il y avait des groupes potentiels en face, il y a eu des incidents. Donc, c'est d'office, on joue le mercredi, ben, le mardi soir, on est 25-30 à aller en ville, tourner dans le carré. C'est le lieu où il y a tous les cafés, le pub et tout ça. Contre Everton, le jour avant, ils étaient vachement plus nombreux que nous. Donc, on s'est fait petit, mais le jour du match, ça a pété. Avant le match, un peu aux alentours du stade, quand les gars d'Everton arrivaient de la ville. Et après le match dans le centre-ville, il y a eu un gros contact de 70-80 gars contre une centaine de gars d'Everton où ça a bien pété. Le Zénith, il y a eu 2 Russes à l'hôpital et une 40aine d'arrestations chez eux où ils sont arrivés avec des couteaux, des chaînes, des battes de baseball. La Sampdoria, il y a eu des incidents dans la rue principale du stade à 40 contre 40. En Coupe d'Europe, c'est plus facile parce que tout le monde est libre de circuler partout où il veut dans la ville. Les supporters adverses arrivent le jour avant, 2 jours avant. Donc la police ne sait pas canaliser les 1000 supporters qui arrivent au compte-gouttes comme ça dans la ville. Donc c'est clair, c'est plus facile.
Autre phénomène à surveiller de près, les alliances internationales créées entre les noyaux durs. Par exemple, des liens forts unissent les hooligans d'Anderlecht et de l'Ajax d'Amsterdam, ou encore du Standard et du club hollandais de Den Bosch. Le criminologue Bertrand Finker nous explique pourquoi il craint de voir se développer de telles amitiés.
Le phénomène est d'ailleurs double. Il y a d'une part ce que les étrangers peuvent venir faire sur le sol belge, avec aussi les risques de, s'il y a plus d'incidents sur le sol belge, l'effet d'entraînement. Hein, finalement, on relance la dynamique d'incidents et donc ça pourra en provoquer plus. Hein, la semaine suivante, on va recommencer, etc. Et avec les mêmes conséquences, il y a le problème des Belges qui vont à l'étranger, qui tombent donc pas sous le coup de la loi football. Clairement, moi je pense que ça c'est vraiment un truc qui est préoccupant. Pour moi c'est vraiment un truc préoccupant parce que c'est difficilement contrôlable, parce qu'il y a cette dynamique d'entraînement, parce que ça peut permettre de fédérer des gens qui au départ ne seraient pas fédérés s'ils restaient uniquement en Belgique, parce que c'est aussi une manière quelque part d'importer ou d'exporter des pratiques, des normes. Il y a quand même là fait une multiplication des opportunités et des chances d'avoir des affrontements, d'avoir des gens qui s'inscrivent dans le moule et le mouvement hooligan, quoi. Donc ça me semble assurément préoccupant.
Le hooliganisme belge est donc toujours bien vivant, même s'il ne fait surface qu'épisodiquement et qu'il vit caché par le biais des free fights. S'il est incontestable d'affirmer que les mesures de sécurité actuelles sont une véritable réussite, il est également nécessaire d'insister sur le fait que le phénomène ne disparaîtra sans doute jamais, car les pulsions humaines sont et resteront incontrôlables. Pour cette raison, il est indispensable de maintenir les normes de sécurité et de prévention en vigueur, tout en travaillant constamment à l'amélioration de ces mesures.
J'en suis persuadé. Si le système relâche sa surveillance, on va voir réapparaître les mêmes problèmes qu'à l'époque. Donc il est nécessaire d'avoir un peu cette épée de Damoclès qui pend et qui empêche de revenir à la situation d'il y a quelques années. Et le hooliganisme, c'est un peu, moi je pense, allez, pour avoir une métaphore, c'est comme une marmite à pression, quoi. On a mis le couvercle, ça tient bien, et si on laisse s'échapper, ça pourrait... cocktail détonant, quoi. Ça pourrait exploser.